Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Terre de Mix pour votre nouvelle émission, les rendez-vous d'Oncle Bernard. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en hommage, notamment ce nom a été choisi en hommage à Bernard Maryse de Charlie Hebdo. On vous laisse réfléchir pourquoi. On a envie de s'intéresser et de vous proposer un autre regard sur ce que sont les choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la République. C'est quoi ? Bonjour Max.
Bonjour.
Alors, justement, pourquoi l'idée de monter un concept où on va expliquer les mots et en tout cas un petit peu notre citoyenneté, j'ai envie de dire. Pourquoi on a eu envie de monter ce concept-là ?
Bien, on a eu envie de monter ce concept puisque nous vivons au sein d'une république. La république a une croyance, on ne sait pas si c'est vrai. Cette croyance est l'idée que l'homme se transforme et que l'homme est à même d'agir sur sa vie et son devenir. Et à chaque fois que cette croyance disparaît, la République, elle disparaît elle aussi. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi avoir une République, pourquoi avoir une démocratie si rien n'est à changer, si on ne peut rien faire, si on ne peut rien changer, etc. Vous voyez ? Donc nous, on a été élevés dans la croyance républicaine que l'homme était en capacité, en étant un citoyen, d'agir sur sa vie, mais par rapport à ça, il faut être éduqué. Voilà. Il nous faut une éducation politique en permanence depuis notre enfance pour pouvoir être ce citoyen qui agit sur sa vie et la société. Si l'homme se transforme, la société se transforme elle aussi. Voilà. Et la question que l'on pose, c'est où sont là ces lieux ? Où sont les lieux dans lesquels on nous forme civiquement ? Vous voyez, tout le monde parle de citoyenneté, mais où sont ces lieux de citoyenneté ? Donc, ce qu'on propose à travers cette émission,
radio, ouais.
C'est qu'on fasse une émission régulière en direction de tous, mais on vise en particulier les plus jeunes, pour que voilà, ils puissent avoir un temps d'instruction civique. Voilà, moi je le pose vraiment comme ça.
Et d'ateliers pédagogiques et didactiques.
Et d'ateliers ensuite par la suite. Donc, on va essayer ensuite par la suite d'élargir ces notions d'instruction civique à des notions plus de discussion, de débat, de réflexion. J'espère qu'à un moment donné, les jeunes seront aussi dans le studio, pourront discuter avec oncle Bernard, que je remercie.
Ici présent.
Oncle Bernard qui sait tout par rapport à la République, c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Mais voilà, c'est ça le but de cette émission. Alors l'idée aussi, c'est qu'on soit le plus clair possible, compréhensible possible, le moins chiant possible, je le dis aussi, pour que tout le monde ait plaisir à écouter.
Voilà, c'est un format qui aura en gros 10-15 minutes en fonction des thématiques. C'est des thématiques qui vont vous être proposées à chaque fois. Ce seront des rendez-vous hebdomadaires qui vous seront proposés sur l'antenne de Radio Terre de Mix. Bonjour, oncle Bernard.
Bonjour.
Alors, c'est quoi la République ?
Historiquement, les habitants s'étaient organisés avec des pouvoirs qui étaient nommés par le haut. Ça procédait du haut. La République, elle dit l'inverse. Elle dit le pouvoir doit procéder du bas, c'est-à-dire des citoyens. Donc la République, elle est directement liée à la citoyenneté. Et la deuxième idée sur la République, c'est que ce système doit répondre à un certain nombre de principes et de règles. Donc deux choses. Premièrement, la République procède du bas avec un statut de citoyen qui historiquement s'est élargi. Par exemple, la République grecque, les citoyens c'était 10% des hommes, donc ça veut dire les femmes n'étaient pas citoyens, et puis il y avait les esclaves n'étaient pas citoyens, etc. Mais il y avait déjà 10% des êtres humains qui étaient citoyens. Et puis ensuite, bien sûr, la République, elle a élargi le corps des citoyens. Elle a d'abord élargi le corps des citoyens à l'ensemble des hommes, au sens sexué du terme, et puis ensuite, au sens de tous les humains, c'est-à-dire des hommes et des femmes.
Lorsque tu dis la République procède du bas, là tu fais immédiatement allusion à la religion. C'est-à-dire que, si je comprends bien, les autres systèmes viennent d'une transcendance qu'on ne connaît pas, qui peuvent être un dieu, qui peuvent être des dieux comme à l'époque de la Grèce antique, etc., ou de la Rome antique. Donc lorsque tu dis ça procède du bas, explique-nous mieux ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie
procéder du... Parce que pour beaucoup beaucoup de chefs d'État, enfin à l'époque, même si, le roi, par exemple, il était nommé par Dieu.
Il était représentant de Dieu sur Terre.
Il était représentant de Dieu sur Terre. Et donc, c'était une structure, la structure du haut, qui justifiait, en fait, cela. Alors que la rupture républicaine, c'est de dire, c'est ni Dieu, ni aucune structure au-dessus des hommes qui décide qui a le pouvoir. Et c'est au contraire les hommes eux-mêmes et qui, à ce moment-là, ont un nouveau statut qui est le statut de citoyen.
À quel moment est-ce que ça arrive dans l'histoire, ça ?
Ben, ça commence, le mot république commence à être utilisé en Grèce, puis à Rome. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était les balbutiements. C'est-à-dire quand on parle de citoyens grecs et de citoyens romains, il faut comprendre que c'est une minorité de personnes.
Donc à l'époque, on parle de la res publica, la chose publique, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que république vient de res publica, la chose publique, c'est-à-dire les citoyens se saisissent de la chose publique et doivent débattre comment... Quelle politique on doit avoir sur la chose publique ? Comment on l'organise ?
Donc, lorsqu'on devient un citoyen, on est un sujet, on n'est plus un objet. On n'est plus un objet, on n'est plus une marionnette dans les mains d'un dieu ou de dieu, etc. On est sujet de sa propre existence. C'est ça l'idée.
Voilà.
Donc, qui dit une république, qui dit un système républicain déjà dans la Grèce antique ou la Rome antique, dit en fait déjà un gouvernement des hommes décidé par les hommes eux-mêmes.
Enfin, c'était une partie des hommes.
Mais... Une partie des hommes, puisque là tu l'as dit, les femmes n'étaient pas si citoyennes et les esclaves non plus. Mais voilà. Donc
et,
on est bien sur
cette idée. Et ni les étrangers, ni. Enfin, il y avait peu de monde en fait. Mais il y avait une agora, il y avait des débats. On commence à avoir des débats dans la Grèce et à Rome. Entre ceux qui étaient considérés des citoyens. Mais c'est déjà une rupture.
Oui. Voilà. Alors ensuite, il va se passer plusieurs siècles qui vont être des siècles de systèmes monarchiques et théologiques un peu partout, c'est-à-dire qu'on gouverne au nom de Dieu très très souvent. À quel moment et où vont se situer les ruptures ?
Alors, il y a plusieurs, en fait, la grande rupture, c'est la Révolution française. Pas simplement pour la France, d'ailleurs, hein, pour le monde entier.
Pour que nos auditeurs comprennent bien. Qui dit république, dit qu'on va rompre avec une monarchie absolue. Mais ne dit pas encore démocratie. On peut très bien être dans une république non démocratique. Est-ce que tu peux expliquer ça ?
Ça, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de le faire. En fait, comme la République procède du bas, il faut, je dirais le minimum, c'est que le chef de la République, le président de la République, il faut qu'il soit désigné par les citoyens. C'est-à-dire que c'est quand même une... Il y a quand même ce fait-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de république sans ça. Simplement, il y a plusieurs façons de concevoir comment on élit les gens. D'ailleurs, pendant la Révolution française, il y a un très grand débat qu'il y a sur la démocratie, sous-estimé d'ailleurs. Et en fait, il y a deux grandes idées qui se développent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit le monarque, il ne doit pas être désigné de père en fils, il ne doit pas être le représentant de Dieu sur terre, il doit être désigné par le bas. À ce moment-là, il y a deux positions. Et il y a une position qui est animée par l'abbé Sieyès et l'autre par Condorcet. Condorcet donc dit bah il faut faire la démocratie, il engage quatre conditions pour qu'il y ait un système démocratique et face à lui, Sieyès dit La France ne saurait être démocratique, c'est son propre terme. Et donc, il faut, pour s'opposer à la démocratie, il faut un gouvernement représentatif. C'est-à-dire que lui, il estime que les citoyens doivent élire celui qui a du pouvoir. Mais une fois que cette personne est élue, cette personne fait ce qu'elle veut. Fait ce qu'elle veut parce que le citoyen, Sieyès, estime que le citoyen, il est capable d'élire le chef, mais il n'est pas capable de penser une politique. C'était ça. Alors, vous voyez ce qui se passe.
C'est intéressant parce qu'il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui ressemble très fort à ça.
Et ben voilà. C'est justement ça. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, le gouvernement représentatif, c'est ce qu'il fallait faire pour s'opposer à la démocratie. Aujourd'hui, on appelle démocratie ce que Sieyès appelait le gouvernement représentatif. Donc, le problème, la République, elle est soit tendance Sieyès, c'est-à-dire avec un gouvernement représentatif, ce qu'est le système actuel.
Mais donc, où on élit le chef, mais après, il n'y a plus de contrôle citoyen, c'est le chef qui décide. Voilà.
Voilà. Et face, en fait, au gouvernement représentatif, il y a ceux qui sont pour la démocratie. Et pendant la Révolution française, l'homme qui symbolise le combat démocratique, c'est Condorcet. Alors, il détermine quatre conditions pour qu'un système soit démocratique. Première condition, il faut que toutes les idées puissent être émises, y compris celles que certains n'apprécient pas.
Ou qu'on ne veut pas entendre.
Ou qu'on ne veut pas entendre. Toutes les idées doivent être émises. Ce qui veut, c'est cette première condition n'est déjà pas respectée dans notre système actuel. Hein. C'est-à-dire, quand on dit toutes les idées doivent être émises, ça ne veut pas dire simplement les gens ont le droit de donner des idées. Non, ça veut dire que sur tous les supports médiatiques, il faut que les idées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les idées puissent passer à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà.
Qu'on leur donne une publicité à ces idées, que l'on puisse leur donner publicité.
Voilà. Pas simplement les idées du chef et de son parti, ou les idées du principal parti d'opposition. Toutes les idées, y compris des idées minoritaires.
Donc il y a là-dedans, en plus, la liberté de la presse,
bien évidemment,
d'affichage,
mais aussi
individuel. Et les moyens
qui vont avec.
Et du coup, aussi individuel, c'est-à-dire qu'une personne lambda pourrait aussi donner son idée.
Voilà, c'est d'accord. Ça l'idée que Condorcet a dans cette première condition. La deuxième condition de Condorcet pour la démocratie, c'est entre toutes ces idées, il faut organiser ce qu'il appelle le débat raisonné. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a émis l'idée, eh bien, il faut admettre qu'il peut y avoir des arguments contraires. Et il faut qu'il y ait un débat raisonné, un débat argumenté de l'ensemble de ces idées. Donc c'est quelque chose de très important. Il ne faut donc pas simplement qu'il y ait un duel à la télévision. C'est un débat dans toute la société. C'est un débat dans toutes les MJC, dans tous les centres sociaux. C'est un débat dans tous les lieux.
Et les assemblées. Donc voilà. Il faut donc créer les assemblées. Assemblée nationale, conseils municipaux, conseils départementaux, etc. Voilà. Il faut créer les instances, les lieux, les temps où on organise le débat raisonné.
Et la troisième condition, mais alors ce qui est intéressant chez Condorcet, c'est que la troisième condition, elle arrive en troisième place. C'est-à-dire qu'il faisait d'abord les deux premières.
Donc là, ce que tu nous donnes en condition, là, tu les as mises par un ordre de priorité
absolument.
Et pédagogique. Quoi,
absolument.
Tel que lui, il est décrit, d'accord.
Et la troisième condition, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le débat raisonné, c'est-à-dire que chacun a pu argumenter pour défendre sa position, argumenter contre les positions adverses, et que les autres puissent faire de même. Eh bien, à ce moment-là, il faut passer au suffrage universel. La quatrième condition, et c'est celle-là qui est très importante, c'est que le citoyen doit rester maître, je dirais, du contrôle politique. C'est-à-dire, il doit pouvoir, s'il est mécontent de l'homme qu'il a élu ou de la femme qu'il a élu, il doit pouvoir proposer En fait, un référendum qu'on appelle aujourd'hui référendum d'initiative populaire, qui peut aller jusqu'à la révocation de celui qui l'a élu. Voilà. Donc ça veut dire ces quatre conditions.
Donc ça, on est d'accord, c'était dans les fondements.
Dans les fondements. C'est-à-dire que si l'une des conditions n'est pas respectée,
on n'est pas
en démocratie, on n'est pas en république, etc.
Non mais, attends, disons que là, c'est vraiment très important, parce qu'il y a des confusions par rapport aux mots. C'est très important de différencier république et démocratie. Moi, j'ai le souvenir que à l'époque de l'Allemagne de l'Est, pays qui n'était pas démocratique, très loin de là, on appelait ça une république démocratique allemande. Oui. Donc, c'est important quand même que tu nous donnes la séparation entre république et démocratie et notre conception française à nous, où la République est obligatoirement démocratique.
Alors effectivement, la République, c'est en fait un système dont le but est l'émancipation. Et donc, pour aller vers l'émancipation...
Le terme émancipation qui signifie se libérer de ses chaînes, quoi, c'est ça?
Absolument.
Hein, voilà.
Et donc, bien sûr, les principes qui sont les principes républicains, on connaît liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire ces trois premiers principes qui sont les principes de la République française décrétés au moment de la Révolution de 1848. Voilà. Il faut bien évidemment, plus on va sur le chemin de l'émancipation, plus on développe les principes. C'est-à-dire, la République, elle se base sur des citoyens, eh bien, il faut que la citoyenneté se développe. Elle s'élargisse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et il faut donc que la démocratie progresse. Donc il y a la République au départ, c'était la conception de CIS. C'est-à-dire qu'on donne aux citoyens juste la possibilité d'élire les chefs. À partir de là, les chefs font ce qu'ils veulent. Y compris le contraire de ce qu'ils ont dit dans la campagne.
Donc en fait, là, ce que tu nous dis, c'est que la République est un départ, c'est un commencement, et qu'elle ne s'arrête pas. Ensuite, à l'intérieur de la République, il faut tout construire.
Absolument.
Elle n'est pas donnée au départ.
Tout à fait.
Et par exemple, la dimension démocratique de la République se construit au jour le jour.
Mais pareil sur la liberté, pareil sur l'égalité, pareil sur la fraternité. C'est-à-dire que la force de la République, c'est que c'est un processus qui se construit de façon régulière.
Elle n'est pas donnée une fois pour toutes.
Absolument.
Ça, c'est un point
très important.
Parce
que c'est une construction humaine. Donc forcément, elle est liée à l'état du débat à un moment donné. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vois par exemple des personnes qui disent « c'est pas juste, les femmes n'avaient pas le droit de vote au moment de la Grèce et de la République de Rome ». Mais à l'époque, ça venait pas dans les idées des gens. C'est-à-dire que ceux qui étaient là, c'est-à-dire les 10% des hommes qui étaient là, aucun pensait qu'il fallait élargir ça aux femmes. Voilà. Et petit à petit, bien
ça
sûr...
Ça n'a été élargi aux femmes en France qu'en 1944, hein.
Oui, même un tout petit peu plus tard.
En 46 même.
46, oui, absolument.
46. Si j'écoute là ce que tu dis, la Révolution française, elle n'est jamais finie. Elle a commencé en 1789 et elle continue tous les jours. Là, c'est ça, en fait, ce que tu dis.
Absolument. C'est d'ailleurs tout à fait ça. Le système de la Révolution française, c'est d'abord un travail culturel dans le siècle des Lumières. C'est ensuite quelques dizaines d'ouvriers, d'artisans de la rue du Faubourg Saint-Antoine qui ont dit « la semaine prochaine, on va prendre la Bastille ». C'est donc quelques dizaines de personnes qui ont décidé ça. Et puis ensuite, il y a un enchaînement. La nuit du 4 août, on supprime les privilèges, c'est-à-dire qu'on met fin un peu aux privilèges des aristocrates. Le 26 août 89, on fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, on est déjà dans un autre monde.
Merci Bernard.
Merci Oncle Bernard. Au revoir, vous étiez sur les rendez-vous d'Oncle Bernard.